Maintenant, nous allons lire un psaume, donc le 26. Le psaume 26, qu'il me soit permis de dire que nous sommes heureux d'être de nouveau avec vous. Je crois que c'est plus ou moins une visite annuelle, et toujours au mois de janvier. Donc c'est très bien, et je suis toujours heureux de venir vous voir. Et nous allons lire donc ce matin un psaume qui était composé par David. Il y a 150 psaumes et à peu près la moitié, je crois bien 73 sur 150, portent la signature de David. Nous ne connaissons pas toujours l'arrière-plan de chaque psaume, mais si vous voulez connaître l'arrière-plan de ce psaume, je vous encourage à lire 1 Samuel et 2 Samuel avant de manger à midi, ce qui veut dire que vous mangerez vers 15 heures. Et puis, vous allez peut-être deviner avec une imagination sanctifiée dans quelles circonstances David a composé ce cantique. Le psaume 26. Je lis dans la Bible, second 21. De David, rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne faiblis pas. Examine-moi, Éternel, mets-moi à l'épreuve. Purifie au creuset mes reins et mon cœur. Car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les hypocrites. Je déteste l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains en signe d'innocence. Et je fais le tour de ton autel, Éternel, pour exprimer ma reconnaissance et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime la maison où tu résides, le lieu où ta gloire habite. N'entraîne pas mon âme dans la ruine des pécheurs, ni ma vie dans celle des hommes sanguinaires. Leurs mains sont souillées de crimes, leur main droite est pleine de pots de vin. Mais moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied tient ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Voilà, un petit psaume, 12 versets. Et nous allons regarder ce psaume de la manière suivante. Versets 1 et 2, il est question de la résolution de David et de sa requête. Je ne sais pas si David a écrit ce psaume le 31 décembre ou le jour de l'an, mais il parle de sa décision, une résolution. Ensuite, nous allons regarder le raisonnement de David. Pourquoi est-ce qu'il a décidé ce qu'il a décidé? Pourquoi est-ce qu'il a demandé ce qu'il a demandé au début de ce psaume? Et en dernier lieu, nous allons regarder de nouveau la résolution et la requête de David, versets 11 et versets 12. Donc, commençons au commencement. Versets 1 et 2, la résolution et la requête de David. Sa résolution est double. Il dit, je marche dans l'intégrité, je me confie en l'Éternel. Tout simple. Une double résolution. Dans certaines versions de la Bible, comme Osterwald et Darby, ce texte est traduit, et c'est tout à fait normal, c'est juste, j'ai marché dans l'intégrité. Je me suis confié en l'Éternel. Il emploie le passé. Et ici, dans ma Bible, c'est le présent. Et dans la Bible du Semeur, il est écrit, la vie que je mène est sans reproche au présent. Tout ça veut dire, tout simplement, que David avait pris la résolution, la décision dans son cœur de marcher dans l'intégrité et de toujours se confier en Dieu, quel que soit les circonstances. Il avait choisi de façon intentionnelle d'être intègre, d'être confiant, non pas en lui-même, mais en Dieu. Si vous voulez me demander, mais qu'est-ce que ça veut dire être intègre? Eh bien, ma définition est tout simple. Être intègre, c'est haïr le mal et aimer le bien. Qu'est-ce qu'il y a de plus facile que ça? C'est facile à dire, pas toujours facile à faire. Mais le psaume 97, verset 10, dit la même chose. Vous qui aimez le Seigneur, haïssez le mal. Être intègre, c'est sa résolution. Mais ensuite, il y a sa requête. Ah, voilà. Sa requête est aussi double. Il demande deux choses. D'abord, il dit, Seigneur, ce qui m'arrive n'est pas juste. Rends-moi justice. Seigneur, agis en ma faveur. Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. David, comme nous parfois, on pense que Dieu est parfois un peu loin, silencieux, inactif. Dieu n'est jamais loin. Certes, il est parfois silencieux, mais il est toujours actif en train de faire ou de préparer quelque chose. Et David dit, Seigneur, fais quelque chose pour moi, s'il te plaît. Ceci est sa première requête. Sa deuxième requête va encore plus loin. Seigneur, regarde mon cœur. Seigneur, examine mes voies. Seigneur, sonde mes motivations. Vous savez, quand vous allez chez l'ophtalmo, il va regarder votre œil. Si vous avez un problème, il va mettre des gouttes qui vont grossir l'œil. Il va faire un, ou elle va faire un fond de l'œil pour aller plus loin. Et ce n'est pas un examen superficiel, mais plutôt profond. Et ce que David est en train de dire à Dieu, ici dans sa prière, c'est, Seigneur, je ne veux pas que tu me regardes de façon superficielle, mais je veux que tu me regardes mon cœur pour voir ce qui s'y trouve. Bien sûr, Dieu n'a pas besoin de mettre des gouttes dans notre cœur pour grossir, parce qu'il voit absolument tout. Et David dit, Seigneur, tu vois mon cœur, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment dans mon cœur? Sonde mon cœur, Seigneur. D'ailleurs, je crois qu'il y a un chant qui dit, change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Et David demande la même chose. Je ne sais pas si ça vous arrive de demander la même chose. Ça peut faire mal. Quand on dit, Seigneur, regarde mon cœur, change mon cœur. Mes motivations, mes arrière-pensées. Quand on prie comme ça, ça peut faire mal. Et c'est en vue de faire du bien. Dans ce verset 1, il y a un lien de cause à effet. Puisque David marche dans l'intégrité, puisqu'il se confie en l'Éternel, il sait, il le dit, je ne faiblirai pas. Il sait que s'il fait confiance à Dieu et si sa vie est droite devant l'Éternel, il sait qu'il ne va pas tomber. Il ne va pas vaciller, il ne va pas chanceler. Dieu l'aidera à rester debout et à garder le cap. Et il en est de même pour chaque chrétien qui lui fait confiance. Dieu nous aidera à ne pas tomber, à condition que nous continuions à lui faire confiance. Première chose. Deuxième chose, le raisonnement de David. Alors, dans ce raisonnement de David, nous voyons deux choses. On voit son attitude et on voit sa gratitude. Je m'explique. Il dit, Seigneur, voici ce que je fais. Il dit, Seigneur, voici ce que je ne fais pas. Il dit, Seigneur, voici ce que j'aime. Il dit, Seigneur, regarde avec qui je m'assois. Regarde avec qui je passe du temps. Regarde avec qui je bois un coup. Regarde avec qui, chez qui je vais ou qui j'invite chez moi. Il parle de plusieurs catégories de personnes qui ne sont peut-être pas toujours fréquentables. Et il dit, mais Seigneur, je veux éviter de passer du temps avec ces gens-là. Il dit même, je déteste l'assemblée de ces gens-là, les rassemblements, les rencontres de ces gens-là qui ne pensent qu'à eux-mêmes, à l'égoïsme, à l'argent, à faire des méchancetés. Alors, il faut dire que David n'est pas ici en train de négocier avec Dieu. Il n'est pas en train de dire, Seigneur, puisque je ne vais pas passer de temps avec eux, je veux que tu me bénisses. Non. David sait qu'il est, il est conscient du danger de ce que nous appelons des mauvaises fréquentations. Il sait qu'il peut être influencé par certaines personnes. Et c'est pourquoi il demande, Seigneur, protège-moi, garde-moi. Et David se savait un pécheur. Et il demande, Seigneur, ta grâce est une réalité. Et je te demande de me garder. Alors, David savait, et j'espère que nous savons tous, que dans un sens ou un autre, nous sommes tous influençables. Et nous devons veiller sur qui ou sur quoi a une influence sur nous. Il y a des bonnes influences, il y a des mauvaises. Et David savait, mais ces gens-là, je ne veux pas les écouter. David voulait, si on veut, avoir une colonne vertébrale. Alors, je nous pose la question. Nous connaissons tous de nos chrétiens. Est-ce qu'ils ont une bonne ou une mauvaise influence sur nous? Est-ce que nous arrivons à dire oui, mais est-ce que nous arrivons à leur dire parfois non? Je ne fais pas, je ne dis pas, je ne regarde pas, je n'y vais pas. Vous savez, parfois, dans les visites dans les églises, tel ancien, tel pasteur me dit, tu vois, David, ce jeune-là, cette jeune fille-là, elle est super, il est super, mais il est très influençable. Et un jour, tout feu, tout flamme, et le dimanche suivant, vu ce qu'ils ont fait dans la semaine, ils sont nulle part. Ce n'est pas que des jeunes qui sont influençables. Et David était conscient de ce danger. Et David dit, mais Seigneur, je veux avoir des mains pures. Il ne s'agit pas de se laver avec du gel hydroalcoolique, hein, même si c'est utile et important à notre époque. Il voulait avoir des mains pures, des motivations pures et un cœur pur, un cœur net. Juste une petite mise au point, et je l'ai déjà dit, mais cela ne veut pas dire qu'un chrétien ne doit jamais fréquenter des non-chrétiens. Dans nos familles, on a tous des membres de famille qui ne sont pas forcément au Seigneur. On travaille avec des non-chrétiens, on fréquente des non-chrétiens, nos voisins, nos amis, etc., etc. Mais ça veut dire que nous devons veiller à ce que le fait que nous ayons des amis ou des membres de famille qui ne sont pas au Seigneur, nous devons veiller à ce que leur influence sur nous ne nous éloigne pas de Dieu. Jésus est appelé l'ami des pécheurs. Luc 15, verset 1. Il était vivement critiqué pour ça. Mais il n'était pas influencé par eux, il voulait leur apporter quelque chose. Et nous devons aussi être des amis. Je ne dis pas des pécheurs parce qu'on est tous pécheurs, mais des gens qui ne sont pas au Seigneur. Mais nous devons être amis pour être une lumière, un flambeau, du sel, un témoin. Que le Seigneur nous aide à être des bonnes influences auprès de ceux que nous connaissons, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. David dit dans ce texte aussi ce qu'il aime. Qu'est-ce que j'aime? Eh bien, il dit, j'aime être dans ta maison, Seigneur. Il dit, j'aime te dire merci à pleine voix. J'aime raconter tes actions magnifiques, merveilleuses, comme disait Antidote tout à l'heure. J'aime ta maison. J'aime te dire merci. Il y a longtemps, on m'a dit, David, tu ne dois jamais laisser passer 24 heures sans remercier Jésus pour sa croix. Tous les jours, on a au moins un sujet de reconnaissance. Jésus est mort pour mes péchés. Le pardon est possible. La reconnaissance. Un livre est sorti l'année dernière et sera traduit en français en 2021. Et en anglais, ça s'appelle Radical Gratitude. Ou gratitude radicale. Ce livre est écrit par un frère bien-aimé qui a décidé d'écrire sur le thème de la reconnaissance parce qu'il savait que dans sa vie et dans la vie des églises qu'il connaissait, les chrétiens étaient toujours prêts à râler. Et c'est pas des Français, pardon. Oh, pardon. Il est un Anglais. Et moi, écossais, français qui parle des Anglais, en disant que c'était une bénédiction, c'est vrai. Eh bien, bon, c'est historique. Et il ne faut pas effacer ça de l'enregistrement. Oh non, bref, soyons sérieux. Donc cet homme a écrit ce livre sur la reconnaissance. Avant d'écrire son dernier chapitre, il est tombé gravement malade et il savait qu'il en avait pour quelques semaines avant de mourir. Alors l'éditeur lui a dit, écoute, au lieu d'appeler le livre « Gratitude », on va l'appeler « Gratitude radicale ». Et j'espère que ce titre restera en français. Parce que dans son dernier chapitre, il parle du fait d'être malade, hospitalisé, perdre du poids tous les jours, et finalement il est mort, juste après avoir fini de taper ce livre. Et il parle des sujets de reconnaissance dans son lit de mort à l'hôpital. Très émouvant, parce qu'il veut montrer que, pas seulement par les paroles, mais par les actes, même en train de mourir, être soigné par des gens qu'on ne connaît pas, on peut être reconnaissant envers Dieu, de façon radicale. Être reconnaissant. David dit, je veux être reconnaissant. Est-ce que vous êtes reconnaissant de la communion fraternelle? Peut-être il faut une bonne pandémie pour devenir reconnaissant de la communion fraternelle. Quand on se rend compte qu'on ne peut pas être 20 à table, ou qu'on ne peut pas embrasser, tenir dans ses bras un frère, une sœur, un enfant bien-aimé. On devient reconnaissant de la communion fraternelle quand on ne l'a plus. Avez-vous demandé à des chrétiens persécutés qui n'ont pas vu des chrétiens depuis des années? Ils sont reconnaissants de la communion fraternelle parce que ça vaut cher. Ou plutôt, ça a une grande valeur. Certaines personnes dans cette salle savent que je suis un fan de Sir Winston Churchill. Comment on dit ça en français? Bon, bref. En tout cas, Winston Churchill, si vous pensez à lui, vous allez peut-être avoir une image de son chapeau et son cigare. Eh bien, savez-vous qu'il y a quelques mois, plusieurs de ses cigares étaient mis en vente. Moitié fumé. Non, il n'avait pas la COVID à l'époque. Mais un cigare comme ça, peut-être, ça fait combien de centimètres? 4-5 centimètres, moitié fumé par Churchill, avec sa salive et tout dedans. Ça vaut 4 500 €. Et plusieurs ont été achetés à ce prix-là. C'est quelque chose de grande valeur. Et pour les chrétiens. Et pour David, il dit, j'aime être dans ta maison. J'aime te dire merci. J'aime être avec ceux qui t'aiment. Ça, c'est quelque chose de grande valeur. Et pour ça, on doit toujours être reconnaissant. Il y a quelques années, une dame traversait l'Atlantique en avion et elle allait au mariage de sa fille aux États-Unis et elle a eu un malaise cardiaque. Donc l'hôtesse de l'air a pris le micro pour dire « Y a-t-il un médecin dans l'avion ?» Elle n'a pas demandé « Y a-t-il un pilote ?» Elle savait qu'il y avait deux pilotes dans l'avion. « Y a-t-il un médecin dans l'avion ?» Et 15 personnes ont levé la main. Toutes les 15 étaient des cardiologues. Ils allaient à une conférence internationale à New York pour des cardiologues. Donc, elle était bien soignée. Elle a failli s'étouffer parce que les 15 voulaient se soigner en même temps, peut-être. En tout cas, elle n'en est pas morte. Elle était soignée et elle a pu assister au mariage de sa fille. Je peux vous dire que cette femme était vraiment reconnaissante. Est-ce qu'elle était reconnaissante envers Dieu? Ça, je ne sais pas. J'espère. Mais elle était reconnaissante envers les 15 cardiologues qui ont pu s'occuper d'elle. Dorothy Fletcher, elle s'appelait d'ailleurs. La reconnaissance. Être reconnaissant. Avoir une attitude de gratitude. Nous allons terminer avec la dernière chose. Versets 11 et 12. C'est comme les deux premiers versets. La résolution de David et sa requête. Qu'est-ce qu'il dit? Je tiens à me conduire selon ta loi. Je veux rester sur le chemin de la vérité. Je veux rester sur le chemin de la droiture. Je veux mener une vie sans reproche. Il emploie même le futur. Je vais mener une vie sans reproche. Ce qui veut dire qu'au début de ce psaume, il parlait au présent et au passé. Et ici, à la fin, il dit, je bénirai l'Éternel. Mon pied tiendra ferme dans ta présence. Passé, présent, futur. David sait que Dieu est là. Et c'est pourquoi il dit, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, viens me secourir. Viens me soulager. Viens me soutenir. Et tout chrétien, à tout moment, peut prier de la même manière. Seigneur, viens me soutenir. Seigneur, viens me secourir. Seigneur, viens me soulager. J'ai besoin de toi. Et quand on prie ainsi, Dieu n'est jamais insensible à nos prières, surtout quand on est dans la souffrance. David savait à qui il s'adressait dans sa prière. Il s'adressait à El Roi, le Dieu qui me voit. Dieu nous voit. Genèse 16, verset 13. Dieu s'adressait à El Shaddai. Et vous connaissez El Shaddai, El Shaddai. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui peut tout. Genèse 17, verset 1. David s'est adressé à Elohim Shema. C'est-à-dire le Dieu qui entend. Le Dieu qui entend. Et David s'adressait aussi à El Hanan, c'est-à-dire le Dieu fidèle. Il y a d'autres noms de Dieu qui sont riches en enseignements. Et il y a un super livre qui est sorti il y a quelques mois, Les 100 noms de Dieu. 100 chapitres, 2 pages chaque chapitre, qui peuvent vous faire beaucoup de bien. Nous l'avons lu en couple pendant 3 mois, ou 3 mois et une semaine, 100 jours, et ça fait du bien de se rendre compte, mais de penser à Dieu au lieu de penser à son propre nombril. C'est pas très joli un nombril, mais de penser à Dieu, ça nous fait du bien. Dieu est un Dieu qui entend, qui voit et qui nous aime. Je vais terminer avec quelque chose qui s'est passé il y a quelques années dans un pays musulman en Afrique. Dans ce pays habitaient Sonia et son mari Hassan. Sonia aimait le Seigneur. Hassan n'aimait pas le Seigneur. Sonia aimait son mari. Hassan n'aimait pas outre mesure sa femme. Il y avait souvent des disputes, pas mal de violences conjugales. Souvent, les membres de l'église de Sonia et ses amis la voyaient venir au culte avec des hématomes, des saignements, parce qu'elle était tabassée par son mari, qui n'acceptait pas qu'elle vienne au culte et qu'elle prie. Un jour, Sonia a entendu parler d'une rencontre pour femmes en pleine brousse. Et elle a dit, elle a osé dire à son mari, « Je veux aller à cette rencontre du lundi au vendredi. » Le lundi matin est arrivé et elle se prête à partir. Et son mari a dit, « Et si tu pars, c'est pas la peine de revenir. » La veille, d'ailleurs, elle était encore battue par son mari. Et elle a dit, « Non, je vais partir et on va prier. » Donc, sur le pas de porte, dans ce petit village, il a dit, « Mais voilà ta clé dans la maison. Voilà la mienne. La mienne, je mets dans ma poche. La tienne, dans la rivière. » Ne reviens pas. La porte est fermée. Sonia est partie à la conférence. Son mari est parti chez une de ses maîtresses pour la semaine. Avant de partir, il a dit, « Et si tu pars à cette rencontre, qui va faire le ménage ? Qui va faire mes repas ? Qui va faire mes courses au marché ?» Elle va à la rencontre et les sœurs prient tous les jours pour son mari. Que Dieu intervienne et que Sonia continue à aimer son mari. C'est pas facile d'aimer quelqu'un qui vous tabasse tous les jours. En tout cas, Sonia, richement bénie pendant cette rencontre, et elle rentre à la maison le vendredi, et en arrivant au village, il y a le marché, et elle dit, « Ah, je vais acheter quelque chose pour faire un petit repas pour mon mari. » Donc, elle dit, « Tiens, elle prend du poisson. » Et elle arrive à la maison, et sur le pas de porte, bien sûr, la porte était fermée à clé, son mari n'était pas là, et elle dit, « Bon, je vais demander à une voisine un couteau. » Elle cherche un couteau, elle commence à nettoyer le poisson. Et dans un de ces poissons, elle trouve quelque chose. Elle regarde. Ah bah, on dirait ma clé. Elle essaie. Et c'était la clé. C'est véridique, c'est ce que je raconte. C'était la clé de la porte chez elle. Donc, elle ouvre, elle va dedans, elle prépare le popote. Ça sent bon. Je vais la sentir d'ailleurs. Bon, ça sent bon. Et puis, son mari arrive. La maison est ouverte. Il sent la cuisine. Il voit sa femme. Mais comment tu as fait? Elle raconte. Et pendant toute la soirée, il n'a pas dit un seul mot. Vendredi soir, samedi passe, et il dit presque rien. Dimanche matin, elle se prépare pour aller au culte et il lui dit, est-ce que je peux t'accompagner? À la fin du culte, il parle avec un ancien et il dit, il faut que tu m'expliques ce Dieu qui a fait que un poisson passe, avale ma clé et que ce poisson-là soit pêché et vendu et mangé par ma femme. Et cet homme s'est converti. Et bien sûr, la vie a été bouleversée. Dieu est un Dieu qui voit, qui est puissant, qui entend et qui est fidèle. Pour résumer tout ce que je viens de dire, quatre mots. Tenir, saisir, bénir et bannir. Vous allez comprendre que ma fille et moi, on aime la poésie. Je veux tenir bon sur la route de l'intégrité, David le dit. Je veux saisir la main de Dieu qui me soutient afin que je ne dévie pas. Je veux bénir l'Éternel en tout temps, il le dit dans ce texte. Et je veux bannir toute crainte, car Dieu est avec moi. Tenons bon, les amis. 2021, on ne sait pas ce que cette année nous réserve. Si on avait su ce qui allait se passer en 2020, on ne se serait jamais levé peut-être. On serait resté au lit jusqu'à ce que ça passe. Tenons bon, saisissons la main de Dieu, bénissons la personne de Dieu et bannissons la crainte.